Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Notre invitée cette semaine est féministe. Oui, effectivement, ce n'est pas un indice très probant. Des féministes, il y en a beaucoup, alors précisons. Vous connaissez l'association Oser le féminisme ? Au moins de nom ? Vous avez forcément entendu parler de Nous Toutes, le mouvement de rassemblement des féministes lancé en 2018 ? Bon, eh ben, Caroline De Haas est cofondatrice des deux. Prenez-le comme ça. Si le féminisme était une armée de rebelles, Caroline De Haas aurait été membre du commandement général. Si je devais filer la métaphore, je dirais que moi, j'ai commencé au front et je suis passée par la direction de la communication et du recrutement. Mais justement, il n'y a pas d'armée, seulement des individus, des femmes qui font ce qu'elles peuvent, et il n'y a pas de commandement général, seulement des activistes, des militantes qui s'investissent au service des autres. Caroline De Haas est de celle-ci, et elle répond aujourd'hui à l'interview des activistes. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à enregistrer ce podcast à distance. Je voudrais qu'on commence direct par parler politique. C'est quoi ton premier souvenir politique ?
Mon premier souvenir politique, au sens vraiment général du terme, je pense que c'est en 1990, quand mon père nous a emmenés à Berlin et à Prague, voir le mur de Berlin, juste après qu'il ait, enfin quelques mois après qu'il soit tombé. Et ça a été une plongée assez impressionnante dans la vie politique européenne.
Pourquoi tu dis que ce souvenir est politique ?
Parce que on a, en fait, à Prague, pour à l'époque, c'était encore l'URSS, et donc pour aller à Prague, en fait, il fallait attendre des heures et des heures à la frontière. Donc on était 4 enfants dans la voiture et un adulte, et on a attendu mais des heures à la frontière. Et puis on arrive à Prague, c'était pas la même vie, c'était pas les mêmes couleurs, c'était pas pareil quoi que notre vie quotidienne. Et donc ça a permis de parler de plein de choses avec mon père sur ben voilà, la question européenne, les questions géopolitiques, la question aussi de la pauvreté, parce qu'on voyait que c'était pas tout à fait le même niveau de vie. Donc voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était un de mes premiers souvenirs politiques. Et puis après, mes premiers engagements politiques en tant que tel, je dirais que ceux qui m'ont le plus marqué parmi les premiers, c'est quand Jean-Marie Le Pen est passé au second tour de l'élection présidentielle, et où moi, j'étais étudiante à l'époque, et on a fait des manifestations à n'en plus finir. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand on voit aujourd'hui le peu de réactions quand Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle.
Effectivement, moi aussi, c'est un moment de la vie politique française qui m'a beaucoup marquée. C'est quoi ta définition du politique ?
Ma définition du politique, ça dépend de quoi je parle. Quand je parle de la politique en général, c'est-à-dire en gros la vie de la cité, je dirais que la politique, c'est s'intéresser aux choses, aux gens et au fait que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une capacité de transformation de la société. Pour moi, c'est ça, faire de la politique. Et puis parfois, je parle de la politique dans le sens partisan, c'est-à-dire s'engager dans un parti politique, être élu. Et ça, moi, j'ai tourné la page de tout ça il y a trois ans. Donc la politique, pour moi, c'est deux choses. C'est d'abord le fait de vouloir agir sur le réel, c'est-à-dire en gros s'intéresser au monde qui nous entoure et se dire qu'on peut ne pas le laisser comme ça, qu'on peut agir pour le transformer. Et puis la deuxième chose, pour moi, la politique, c'est la vie partisane, c'est-à-dire s'engager dans un parti politique, être élu. Et ça, c'est vrai que ça fait un long moment, enfin maintenant 3 ans que j'ai tourné la page de tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que, en tant que citoyenne, en tant que féministe, je peux agir sur le réel. Et pour moi, c'est ça, faire de la politique.
On va revenir un peu plus tard dans l'interview sur ton parcours d'engagement, justement. Avant ça,
Est-ce que tu te souviens de ta première indignation ? Parce que là, on a parlé de politique au sens traditionnel du terme, mais généralement, ça peut commencer avant les idées qu'on a. La première fois que tu t'es dit « ça, c'est pas juste ».
Je pense que ça, c'est quand j'ai vu des personnes mendier dans la rue. Je pense, moi, j'ai un souvenir de toute petite sortir d'un supermarché. On avait fait les courses et voir des gens qui mendiaient dans la rue, quoi. Et de demander à mes parents, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et je le revis aujourd'hui en tant que parent. Parce que mes enfants, ça fait partie des questions qu'ils posent. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'en France, il y ait des personnes qui n'aient pas de logement ou qui n'aient pas assez d'argent pour manger.
Comment t'en es arrivé à t'engager sur les questions d'égalité, étant donné que justement ta première indignation, ton entrée dans ce parcours d'indignation, j'ai envie de dire, n'était pas spécifique au genre ?
Ouais, c'est un peu par hasard en fait que je me suis retrouvée à militer sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, je me suis d'abord engagée dans un syndicat étudiant, qui est l'UNEF, et quand j'ai été nommée ce qu'on appelle au bureau national de l'UNEF, c'est-à-dire qu'en gros, moi, j'habitais à Lyon, et je suis montée à Paris, comme on dit, pour venir devenir responsable nationale de l'UNEF. Et à ce moment-là, je me suis occupée d'organiser l'activité de l'UNEF en région parisienne, et je militais avec une militante qui s'appelle Léa Filoche, et qui était un peu estampillée la féministe de service dans le collectif, à l'UNEF, quoi. Et donc, elle m'a pas mal sensibilisée à ces questions-là. Et puis, au bout d'un an, elle est partie du bureau national, et on m'a proposé de reprendre la thématique égalité. Donc, moi, j'étais d'accord, hein, ça m'intéressait, mais en fait, on m'aurait proposé n'importe quelle thématique, je pense que j'aurais dit oui. Enfin, voilà, tous ces sujets m'intéressaient, tous les sujets d'inégalité m'intéressaient. Et puis là, je me suis retrouvée dans une réunion de militantes féministes, à représenter donc l'UNEF, donc moi je représentais le syndicat étudiant, et c'était des réunions avec tous les syndicats, tous les partis, toutes les associations féministes. Et c'était des réunions qui étaient gérées par une femme qui s'appelait Maya Surdut, et qui en fait m'a fait basculer dans l'engagement féministe de manière assez rapide et radicale. Voilà, elle m'a énormément appris pendant quelques années avant qu'on s'embrouille, elle m'a un peu pris sous son aile, et puis elle m'a vraiment transmis énormément de choses. Et en fait, à ce moment-là, ça a été pour moi le premier point de bascule. J'ai compris que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes était en fait un moyen de comprendre mieux le monde dans lequel on vivait, et que si on n'avait pas cette grille égalité femmes-hommes ou ce filtre de compréhension du monde égalité femmes-hommes, en fait il y avait plein de trucs qui nous échappaient. Et j'ai vraiment eu l'impression, ça m'a fait la même chose avec l'écologie en fait. C'est-à-dire vraiment de rajouter une sorte de filtre à ma façon de voir le monde, et de tout d'un coup faire « Ah ouais, en fait, il y a des trucs que j'avais pas compris, quoi. » Et donc de mieux comprendre le monde, et donc d'être mieux à même de le changer. Ça a été le premier point de bascule. Et puis le deuxième point de bascule, il a été plus viscéral, c'est que quelques années après, c'est moi qui étais devenue un peu la féministe de service dans le collectif dans lequel j'étais. Et petit à petit, il y a des femmes qui sont venues me voir pour témoigner de violences qu'elles avaient subies, notamment de violences sexuelles dans leur enfance. Et donc au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, je les attire ou quoi ? Il y en a quand même beaucoup, quoi. Et donc je suis allée me renseigner, et là, j'ai compris qu'en fait, il y en avait beaucoup partout, quoi. Et qu'il y avait en fait des centaines, en fait des millions de femmes en France qui avaient subi des violences sexuelles, et notamment dans leur enfance. Et là, j'ai basculé dans un truc vraiment vénère, quoi. De genre, en fait, il faut que ça s'arrête. C'est pas possible qu'on abîme des gens comme ça. En fait, c'est pas possible, en fait, qu'il y ait 250 femmes qui soient violées chaque jour en France et que personne n'en ait rien à cirer. Enfin, c'est quand même... Enfin, il y a un truc dans mon cerveau, là, qui a fait... Et je me suis dit, en fait, il faut... Voilà. Et donc, je me suis dit à ce moment-là que quand j'arrêterai de militer dans un syndicat étudiant, je m'engagerai dans une association féministe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en sortant de l'UNEF, j'ai créé une association féministe, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à nous toutes aujourd'hui.
Je voudrais justement revenir sur ce que tu as dit à l'instant, le filtre qui fait changer ta vision du monde, que ce soit par le féminisme ou par l'écologie. Parlons du féminisme plus précisément. En fait, pourquoi c'est politique, toutes ces questions ? Je voudrais qu'on prenne notamment l'exemple des violences conjugales. J'ai posé une question similaire à une journaliste engagée il n'y a pas si longtemps que ça, Anaïs Condomine. Pendant très longtemps, on ne parlait pas de féminicide, mais de drame passionnel. Lorsqu'un homme assassine sa femme, alors c'est une chose de qualifier de requalifier plutôt un drame passionnel en meurtre dans les titres des articles de presse, mais c'est une autre chose de faire le lien entre tous ces drames de faits ordinaires, finalement, parce qu'il y en a tellement, pour en faire un problème, pour l'analyser sous le prisme d'un problème de société. En fait, la question que je te pose, c'est pourquoi et comment on passe de tous ces faits divers à un phénomène de société, à un problème systémique. C'est une critique que reçoivent beaucoup les féministes par nos détracteurs. On nous dit... c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont violents avec leurs femmes que c'est un problème politique. Ça reste une somme de problèmes individuels, finalement. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Alors justement, c'est intéressant parce que la première campagne qu'on avait faite avec, à l'époque, le collectif féministe contre le viol, mixité et oser le féminisme, c'était une campagne contre le viol en 2010. Et le titre de la campagne, c'était, à l'époque, le chiffre qu'on avait par les enquêtes, c'était 75 000 viols par an. Et le titre de la campagne, c'était 75 000 viols par an. Ça fait beaucoup pour des cas isolés. Et c'était justement ça l'idée, de se dire, en fait, s'il y avait 2 viols en France chaque année, ça serait grave, c'est un problème, il ne faut pas qu'il y ait des personnes violées. Mais ça serait des cas exceptionnels, extraordinaires. Aujourd'hui, les violences sexuelles en France, elles ne sont pas extraordinaires. Elles font partie du quotidien des femmes. Et donc, quand il y en a beaucoup, en fait, ce n'est pas seulement un problème pour les individus, c'est que ça crée en fait une forme de tolérance dans la société à ces violences. Le fait qu'il y ait énormément de propos sexistes en entreprise n'est pas seulement un problème pour les personnes qui sont visées. D'abord, c'est un problème pour toutes les personnes qui risquent d'être visées par ces propos sexistes ou ces violences sexuelles. Moi, en tant que femme, quand je me balade le soir dans la rue toute seule, je pense à un potentiel viol. Je pense à ça. Donc ça me mange du temps de cerveau disponible que je devrais utiliser pour réfléchir à comment changer le monde, à qu'est-ce que je vais acheter demain pour manger, ou à comment je vais décrocher un nouveau contrat, au lieu d'avoir ce temps de cerveau-là, ou qu'est-ce que je vais lire, ou j'en sais rien, ou enfin, penser à ma famille, j'en sais rien. Ben, je vais penser à « Ah mince, je suis en danger ». Donc c'est un problème pour les personnes victimes, c'est un problème pour les personnes qui potentiellement pourraient être victimes, et en fait ça pose un problème à l'ensemble de la société. Donc, ce n'est pas uniquement une question individuelle, c'est en fait une question collective. Et puis, au-delà de ça, le fait, par exemple, dans une entreprise, qu'on banalise les propos sexistes, bah, ça autorise quelques-uns à passer au niveau au-dessus, et donc au harcèlement sexuel. Et le fait qu'on tolère le harcèlement sexuel, ça autorise quelques-uns à passer au niveau au-dessus, et donc à l'agression sexuelle jusqu'au viol. Et donc, voilà, c'est à la fois un problème individuel, et puis c'est un problème collectif, donc politique.
Merci beaucoup pour ça, c'est extrêmement clair.
Du coup, puisque tout ça, on dit que c'est politique, c'est question de violence, d'inégalité, ça a été quoi ton déclic, toi, pour t'engager en politique au sens plus traditionnel du terme ? Parce que t'as été au PS, t'as travaillé pour Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des Femmes, t'as été candidate à plusieurs élections, dans ce sens-là. Mais t'es aussi une figure d'opposition, je pense par exemple à la loi travail. Donc pourquoi ? Quel a été ton déclic pour t'engager et ensuite pourquoi l'avoir quitté puisque tu as mentionné le fait d'avoir quitté ce monde-là il y a quelques années ?
Alors mon déclic, ça a été de me rendre compte, enfin de penser à l'époque, quand j'étais étudiante, donc j'étais syndicaliste, donc nous on passait notre temps à revendiquer. Il faut créer ça, il faut faire ceci, il faut inscrire les étudiants étrangers, il faut une protection sociale plus importante pour les étudiants, etc., etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que revendiquer c'était utile, mais qu'il y avait un moment, il fallait prendre le pouvoir en fait, si on voulait changer radicalement la donne. Et donc, pendant des années et des années, moi, j'ai participé à des collectifs politiques en me disant, moi, je veux participer à une aventure de conquête du pouvoir, parce que c'est en prenant le pouvoir dans un pays qu'on va réussir à faire des lois, à faire appliquer les lois, à mettre des moyens financiers là où on veut et pas là où, par exemple, Emmanuel Macron les met depuis qu'il est élu. Et ça a duré assez longtemps, jusqu'au jour, en fait, où... Je ne sais pas ce qui a fait le déclic dans l'autre sens, sans doute plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que je pense que le monde politique, dans le sens traditionnel du terme, est un monde violent, en général, et en particulier pour les femmes. Les gens se crient dessus, les gens se parlent mal, les gens se méprisent. C'est-à-dire que si on faisait une enquête sur le harcèlement moral dans le monde politique, je pense que ça serait du niveau Tchernobyl, quoi. Bon. Et ça, moi, je ne peux plus supporter, en fait. Je ne veux plus jamais... de ma vie, me retrouver face à des gens qui me parlent mal, qui me font peur, qui m'humilient ou qui me dévalorisent. Plus jamais. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, j'étais pas obligée de subir ça, et bah j'ai arrêté, en fait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de me retrouver dans ces espaces-là. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui est très important à nous toutes, c'est qu'on a essayé, et je pense qu'en partie, on y est arrivé, même si c'est jamais parfait, à créer un espace totalement bienveillant et totalement sécurisé pour les individus. Et on a des mécanismes d'alerte. Dès que ça commence à se tendre entre nous, dès qu'il y en a qui commencent à mal parler, tout de suite, il y a des personnes qui interviennent pour dire « Attendez, on redescend, on coupe la conversation, dans une semaine, enfin, dans 2-3 jours, on en reparle. » Mais il y a vraiment, on a vraiment mis en place des mécanismes d'alerte pour que jamais personne ne se parle mal ou ne se mette mal à l'aise ou ne se dévalorise. Donc ça, ça a été vraiment un élément pour moi assez important, c'est que, en fait, moi, j'ai envie de m'éclater dans la vie, quoi. J'ai pas envie de me faire chier. Et franchement, non seulement je me faisais chier, c'est-à-dire que je faisais des réunions qui servaient à rien, qui ont passé des heures à parler sans prendre aucune décision. Et en plus, franchement, c'était violent. Et puis le deuxième déclic, ça a été de me dire que vu l'état de la gauche dans ce pays, dans les 10 ans qui viennent, je ne pense pas qu'aujourd'hui la gauche soit en capacité de reprendre le pouvoir et de changer, d'avoir un rapport de force suffisant pour changer radicalement la donne. C'est-à-dire que même si la gauche arrive au pouvoir, je ne sais même pas si elle aura le rapport de force économique, financier, pour changer radicalement la donne. Et donc j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs, et notamment sur la question des violences. C'est totalement déprimant ce que je dis, hein. Je suis désolée, je ne veux pas décourager les gens qui veulent faire de la politique. Hein. Je trouve ça super d'être encore enthousiaste, juste moi j'y arrive plus quoi.
Mais en fait il n'est pas question de décourager ou pas, je pense que c'est important d'avoir un œil interne à ce monde-là aussi, qu'on souhaite s'y engager ou que ce soit quelque chose qui nous effraie. Et justement je me demandais quels enseignements toi tu retires des années que tu as passées dans ce monde-là et qui peuvent te servir encore aujourd'hui.
Alors d'abord, l'enseignement, c'est un enseignement par contraste, c'est-à-dire que en fait, moi, je refuse de participer à des collectifs militants dans lesquels on reproduit des choses qu'on a dénoncées. Par exemple, à nous toutes, on embauche une fois par an une salariée pendant un mois et demi pour la marche, pour préparer la marche. Bah ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que je vais pas généraliser. Dans beaucoup de collectifs, que ce soit féministes ou autres, quand vous embauchez quelqu'un, dans les milieux associatifs, en général, les conditions de travail ne sont pas très bonnes. Les gens ils vont travailler 50 heures par semaine, payés au lance-pierre et avec des coups de pression de ouf, quoi. Et ça, par exemple, ça fait partie des éléments pour nous hyper importants. Quand on embauche quelqu'un à nous toutes, on respecte le temps de travail. Donc, c'est 35 heures par semaine. Quand vous préparez une marche à 150 000 personnes en France, bosser 35 heures par semaine, c'est pas facile. C'est pas facile pour les personnes qui encadrent la salariée. C'est même pas facile pour la salariée elle-même qui a envie de bosser plus. Eh ben, on tient. Vous voyez, on tient bon, on essaye de rémunérer, on préfère embaucher une seule personne avec un salaire décent, c'est-à-dire on paye en général 2000 euros par mois, 2000 euros net par mois, plutôt que deux personnes au SMIC, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est sur les conditions de travail. Mais on peut faire pareil sur la question de la bienveillance entre nous et de la façon de se parler. Donc première leçon en effet miroir, c'est que je pense que si on veut créer des espaces militants dans lesquels on applique ce qu'on dit dans la vie politique, en fait, ça demande un effort particulier. C'est pas simple, c'est pas facile de créer des espaces dans lesquels il n'y a aucune violence. Et puis le deuxième... Puis après, j'ai appris des milliards de trucs dans mes engagements politiques, hein, en termes de communication, de stratégie, de langage, par exemple, comment déclencher un buzz. En décrochant une du Parisien, puis en prévenant l'AFP, puis en prévenant 3-4 influenceurs sur le web et influenceuses pour qu'ils relaient la campagne pile au bon moment avec le bon hashtag. Bon, ça fait partie des trucs que j'ai appris dans les milieux féministes et dans le milieu politique.
Et ça se voit quand tu le fais, ça se voit.
Mais maintenant, je forme des gens à le faire, hein. Y a des techniques en fait.
Alors justement, on parle des modes d'action. Toi, on a dit que t'en avais changé. Est-ce que pour toi, il y a un mode d'action qui est plus efficace que d'autres quand on veut changer le système en profondeur, et donc ici en particulier le patriarcat ?
Alors moi, je dirais pas qu'il y en a des plus efficaces que d'autres. Je dirais qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Donc je porte pas de jugement hiérarchique en termes de ça, c'est plus efficace, ça c'est moins efficace. En gros, la question maintenant pour moi centrale, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est comment je fais des trucs qui me font kiffer dans la vie. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me faire chier en fait. Je parle pas de là dans le travail, parfois on se fait chier, il y a des trucs chiants à faire au taf, bon. Mais dans la vie militante, comme c'est pas une obligation, je vais pas me faire chier en fait. Bon, c'est pareil à la maison, je veux dire, moi passer aspirateur c'est pas mon kiff dans la vie, ça me fait chier, je le fais quand même, on est un peu, pas trop souvent, mais un peu obligé quand même. Bon, par contre dans le militantisme, c'est vraiment un espace où je vais pas me faire chier en fait. Donc je vais faire que des trucs qui me font kiffer. Qu'est-ce qui me fait kiffer moi ? Ce qui me fait kiffer, c'est la masse, c'est-à-dire c'est le fait de toucher le maximum de monde à la fois, en même temps, pour avoir ensuite derrière un changement social qui fait en fait bouger les lignes. un peu comme si vous sentiez physiquement la société bouger par votre action, vous voyez ? Comme si vous étiez une sorte de méga tractopelle, quoi, et que vous arriviez à faire bouger un tout petit peu. Évidemment, c'est un demi-millimètre, mais même un demi-millimètre, quand on fait bouger toute la société d'un demi-millimètre, en fait, c'est énorme en termes de changement social. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec nous toutes, avec les formations. C'est-à-dire que là, pendant le confinement, j'aurais formé, je pense, entre peut-être 12 et 18 000 personnes à détecter les violences. Bon, quand vous atteignez 18 000 personnes formées, franchement, ça a un impact sur le réel, quoi.
Parce qu'en plus, c'est, enfin, donc moi j'ai suivi la formation et j'ai suivi la formation de mardi soir et effectivement, il y a une partie qui est extrêmement intéressante dedans sur détecter les violences et comment en parler aux personnes dont on imagine qu'elles puissent être victimes et même quand on est des personnes qui sont déjà sensibilisées, comme je pense qu'on l'est, Clémence et moi. Eh ben, c'est utile et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le niveau 2 de cette formation parce que je pense qu'on va aller encore plus loin et c'est assez formidable de voir ça, de voir même des potes qui n'étaient pas spécialement féministes avant décider de s'inscrire eux aussi à cette formation des hommes. Hein, pour moi, c'est un changement effectivement d'ampleur, quoi.
Caroline, ceux qui agissent ont toujours tort et tu agis beaucoup, donc tu récoltes énormément de critiques pour le dire pudiquement. Tu as été violemment harcelée sur les réseaux sociaux. Il y a un réalisateur français assez connu quand même qui s'est permis de dire tranquillement sur un plateau télé qu'il avait envie de te gifler. Vraiment, je connais des gens qui auraient tout plaqué pour aller élever des lamas en Ardèche à beaucoup, beaucoup moins que ça. Comment tu fais pour rester mobilisée ? Comment tu fais pour tenir face à tout ça ?
Alors d'abord, je tiens pas tout le temps. La dernière vague de cyberharcèlement importante que j'ai subie, ça a quand même déclenché 9 mois de départ des réseaux sociaux et une bonne dépression quand même, qui a duré plusieurs mois. Donc en fait, je tiens pas tout le temps, parce que c'est tellement violent, ça remet tellement en cause l'estime de soi-même. Ça, en fait, c'est incroyable ce que ça crée, c'est-à-dire que c'est numérique, c'est en ligne. Et ça vous atteint, mais dans votre vie personnelle, dans votre, enfin, physiquement, dans votre corps, mais à un niveau qui est stratosphérique. Enfin, c'est... Donc ça, maintenant, j'ai un certain nombre de mécanismes. Là, par exemple, il y a une semaine, j'ai subi des trucs sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite senti que ça allait m'atteindre. Et donc, j'ai coupé pendant 4-5 jours Twitter de manière à... Donc maintenant, j'ai vraiment des mécanismes de défense. Mais donc, première chose, en fait, je suis comme tout le monde, je tiens pas. Et que quand je suis victime de violence, bah, ça m'atteint. L'autre jour, j'étais en formation. Et je sais pas quoi, on parle des émotions et je dis les émotions, c'est un bon signal d'alerte sur le fait qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'en gros, il y a des gens qui disent cette formation, elle génère chez moi des émotions. Et je dis, ben, c'est super, ça veut dire que votre cerveau vous envoie un message. Moi, par exemple, dans le cadre de mon travail, on a une psy qui nous suit parce que comme on travaille beaucoup sur les violences, on est très impacté par les témoignages des victimes et donc on est suivi par une psy. Et là, je suis dans la formation, donc il y a 1000 personnes connectées. Et je dis, bah, moi, quand je suis avec la psy au téléphone, je lui parle, et tout d'un coup, je sens l'émotion qui monte, que je sens que je vais me mettre à pleurer et tout ça, pour moi, c'est un bon signal d'alerte. Et là, il y a genre 15 personnes qui m'écrivent en mode, mais toi, tu pleures ? J'étais là, mais les gens, mais bon, d'abord, je pleure à chaque fois que je vois un film romantique, bon. Mais surtout, évidemment que je pleure. Enfin, je veux dire, évidemment, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est marrant parce que parfois on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage entre l'image qu'on renvoie de genre la meuf qui tient tout le temps et en fait la réalité. Non, la réalité c'est que quand je suis victime de violence, je m'effondre. Enfin, je veux dire, parce que je suis victime de violence et que quand on est victime de violence, bah ça va pas quoi. Bon. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est comment je fais résultat après pour donc d'abord je mets en place des mécanismes de défense. Donc c'est-à-dire que je coupe les réseaux sociaux, je me protège, je m'entoure de gens bienveillants. Quand je fais des formations au média training, que je forme des femmes à parler dans les médias, je dis quand vous êtes militante féministe ou quand vous êtes experte et que vous parlez dans les médias, il faut identifier 3 types de personnes qui doivent systématiquement, que vous devez avoir autour de vous dans votre paysage. Premier type de personnes, les trolls. Eux, vous les bloquez. C'est-à-dire que vous ne leur parlez pas, vous ne leur répondez pas. C'est des gens dont l'unique objet est de vous faire sentir une grosse merde. Donc, vous ne les laissez pas vous atteindre. Vous les bloquez. Vous ne parlez même pas avec eux. Voilà. Deuxième type de personnes, les fans. Donc, les fans, donc les personnes qui sont fans de vous et qui passent leur temps à vous dire que vous êtes quelqu'un de génial. Donc, eux, on ne les bloque pas. Ce n'est pas forcément des gens qui vont vous faire des critiques, mais ils sont très utiles pour redorer votre blason. Et puis, la troisième catégorie, qui est pour moi la plus importante, c'est ce que j'appelle les critiques empathiques. Ça se compte en général sur les doigts d'une main, c'est-à-dire des personnes que vous aimez profondément, qui vous aiment profondément et qui sont capables de vous critiquer, de vous faire avancer, de vous challenger sans qu'à aucun moment ça remette en cause le fait qu'ils vous respectent, qu'ils vous admirent et qu'ils vous aiment profondément. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens comme ça. Généralement, on en a 3, 4 dans son entourage. Mais c'est des personnes très importantes pour avancer. Et en général, quand moi j'ai des coups de mou ou que je suis victime de violence, c'est vers ces personnes-là que je me tourne. Et puis la dernière chose que je fais, c'est que quand même je sollicite un peu les fans. C'est-à-dire que quand j'ai des gens qui vraiment sont pas sympas sur les réseaux sociaux, je fais un petit tweet « Ouais, moi, je suis victime de violence !» Et là, il y a 150 personnes qui répondent « Mais t'es trop géniale, t'es trop forte !» Et là, c'est cool, ouais, ça fait du bien. Ou alors, autre solution, j'organise une formation. Parce que quand j'organise une formation avec 1000 personnes en ligne, bah, qu'est-ce qui se passe à la fin de la formation? Vous avez 1000 personnes qui vous disent « là, mais c'est génial, mais c'est trop fort, mais bravo, mais merci bon. !» Et donc après, vous ressortez, vous avez l'impression d'être une star. Jusqu'au prochain cyberharcèlement.
Alors ça, c'est la partie comment gérer la critique en direct, je vais dire. Mais il y a un deuxième pilier dans le découragement, je trouve, c'est le fait de ne pas voir des effets concrets quand tu te mobilises. Je pense que quand on est investi dans la lutte pour l'égalité, contre le patriarcat ou pour l'écologie, pour changer de système, on a sans arrêt le nez dans tout ce qui va mal. Et tu le disais, par exemple, dans les témoignages des victimes de violences. Et les bonnes nouvelles sont assez rares. Donc ma question, c'est est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir découragé, dépassé par tout ça? Comment tu fais pour rester mobilisé et pour pas avoir ces pulsions de tout plaquer pour aller couler des jours heureux à la campagne?
Alors, donc moi, je suis définitivement équipe vert à moitié plein. C'est-à-dire que je pense que les choses sont en train de bouger de manière extrêmement radicale dans le monde et en France. Mais comme je pense jamais ça n'a bougé aussi vite. Et je suis hyper enthousiaste de vivre ce moment-là. Enfin, voilà, je suis hyper enthousiaste. Donc, je suis très optimiste. Le truc qui génère chez moi une colère que j'ai du mal à gérer, c'est quand je vois un homme connu mis en cause pour des faits de violence qui est validé par une grande interview dans un journal du soir ou qui pose dans une grande campagne contre les violences ou qui est mandaté par le président de la République pour écrire un rapport contre les violences, alors que j'ai moi-même reçu des témoignages de personnes ayant été victimes de ces personnes-là. Et que je vois des responsables politiques de gauche retweeter cette personne, citer cette personne comme si il n'y avait aucun problème. Et ça, je trouve ça dur, parce que je me dis, on va jamais y arriver, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment dur, parce que quand je vois tous ces messages de valorisation d'un certain nombre d'hommes connus, où franchement, les gens savent qu'il y a un problème. Les gens savent. Je veux dire, moi, je suis pas la DGSE, quoi. Je veux dire, je suis pas les services secrets français. Donc, si moi, je le sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le sait qu'il y a un problème. Et quand vous avez lu ou entendu, recueilli la parole des victimes, et que vous voyez les gens passer à la télé, à la radio, donner des interviews dans les journaux en mode « tout va bien », ça, c'est très douloureux. Ça, moi, j'ai du mal à gérer ma colère. En général, dans ces cas-là, je me barre des réseaux sociaux parce que sinon, je vais faire une bêtise. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus dur à gérer. Tout le reste, moi, le fait que les pouvoirs publics, en ce moment, ne soient pas à la hauteur du niveau de violence... Je dis en ce moment, il n'y a jamais vraiment eu de pouvoir public à la hauteur en matière de violences sexistes et sexuelles. C'est pas nouveau, en fait. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'avec ce qu'on fait avec nous toutes, on fait nous-mêmes bouger les lignes. C'est-à-dire que quand j'ai le sentiment que ça avance pas assez vite, par exemple, pendant le confinement, un des éléments qu'on a dit assez rapidement, c'est qu'il faut former les professionnels à accueillir la parole des victimes. Parce qu'après le confinement, les femmes, elles vont se ressortir. Et tous les travailleurs sociaux, toutes les travailleuses sociales, les médecins, les policiers, les gendarmes, ils vont se prendre les violences en plein dans la tête, quoi. Et le gouvernement ne le fait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On organise des formations avec nous toutes. Les formations, il y a des dizaines, des centaines de professionnels qui viennent se former. Ce qui est juste et lunaire, hein. C'est-à-dire que c'est pas normal que ces gens-là soient formés par une militante bénévole pendant 2h30 en ligne. Ça devrait être fait dans le cadre de leur travail. Mais comme c'est pas fait, on le fait à la place. Voilà, donc vraiment la solution pour moi, pour pas péter un câble, c'est l'activisme. Dès que je suis vénère, en fait, je lance un truc. Un visuel, une formation, une pétition, n'importe quoi. Je m'en fiche. Alors après, il y a des critiques. Il y a des gens qui me disent « Mais Caro, tu zappes, tu passes d'un truc à l'autre. » Et c'est vrai, je zappe, c'est vrai. Mais en même temps, ça me fait du bien, donc voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais, si tu, un jour tu vas être élu, il faut rester longtemps au même endroit, il faut faire son petit trou. Je sais pas faire ça, moi. C'est pas grave, hein.
De toute façon, a priori, t'as pas l'intention d'être élu pour l'instant. En revanche, ce que t'as fait, c'est que tu en as fait ton activité professionnelle, presque de ton militantisme, puisque ce que tu fais, c'est de la formation à l'égalité. Pourquoi t'as fait ce choix-là ?
Alors, la formation, parce que je suis tombée dedans quand j'étais à l'UNEF. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a formée à être formatrice. Et ça a assez radicalement changé ma... Ouais, ça m'a beaucoup éveillée, en fait. Je me suis vraiment rendu compte que la formation était un outil très intéressant pour changer les postures, les pratiques des gens. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi l'égalité ? Bah, parce que ça me passionne, tout simplement. Et que si non seulement je peux militer sur ce sujet, mais je peux en faire mon métier, comment dire que c'est jackpot, quoi.
Donc, t'as créé une société de conseil et de formation qui est spécialisée sur les questions d'égalité. On parlait de voir le verre à moitié plein. Sur les 10 dernières années, est-ce que vraiment, sur le terrain, tu constates une évolution des mentalités ? Et à quoi tu le constates ?
Je constate une évolution radicale des mentalités. Quand j'ai créé Oser le féminisme en 2009, on organisait des réunions. Le titre des réunions, tenez-vous bien, c'est « Faut-il encore être féministe en 2009 ?» ou « À quoi ça sert encore d'être féministe en 2009 ?» C'est-à-dire que c'était le titre des réunions, quoi. C'était genre le titre pour faire venir les gens. Mais vous imaginez, on organise un truc comme ça ? Genre, c'est valeur actuelle, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas, en fait. Non, mais c'est énorme. Quand j'y repense, mais ça me fait tellement rire. Bon. Quand j'ai commencé à faire des formations professionnelles et que je parlais des critères de discrimination et que je parlais des personnes trans, mais il y avait la moitié des gens dans la salle, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils me faisaient répéter le mot, il fallait que j'explique. Bon, ça arrive encore aujourd'hui, évidemment. Mais globalement, quand même, le niveau de connaissance sur toutes les questions liées à l'égalité, au genre, c'est plus pareil, en fait. C'est plus pareil qu'avant. Et donc, moi, je suis hyper optimiste, en fait. Et d'ailleurs, je le vois, moi, aujourd'hui, dans les entreprises. Quand j'interviens dans les entreprises sur la question du harcèlement sexuel, en 2014, j'ai fait mes premières formations sur le harcèlement sexuel dans une entreprise. D'accord ? J'ai formé les RH, donc les ressources humaines. Et un mois après, je devais former le CODIR, donc le comité de direction. Les RH m'ont demandé d'enlever mes diapositives sur le harcèlement sexuel dans ma présentation. Ça, c'était en 2014. Les premières entreprises qui m'ont demandé de former tout le monde, la première entreprise qui m'a demandé de faire ça, c'est Mediapart, en 2016. D'accord ? Donc, c'était en 2016. C'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'interviens auprès de centaines, voire de milliers de personnes dans le cadre de mon travail, pour les former à la question du harcèlement sexuel. Alors que, enfin, je veux dire, il y a 3 ans, 4 ans, personne ne voulait en parler. Donc c'est quand même le signal que les choses, elles bougent de manière... Enfin, moi, je pense que les choses, elles bougent de manière assez radicale, quoi.
Effectivement, parmi ce qui bouge de manière assez radicale ces dernières années, je voudrais qu'on parle du rassemblement des féministes. Je voudrais qu'on parle un peu de nous toutes. Alors moi, nous toutes, de l'extérieur, je le perçois comme l'union des féministes. Mais je suis intéressée par toi, ta définition de ce qu'est Nous Toutes et quel est son objectif ?
Alors, Nous Toutes, c'est un collectif féministe dont l'objectif est de faire baisser de manière réelle le niveau de violence dans la société. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à travers nos actions, on fasse petit à petit augmenter le niveau de conscience sur la question des violences sexistes et sexuelles et que, résultat, ça fasse baisser très matériellement le niveau de violence. Comment on fait ça ? On fait ça de deux manières. D'abord, en s'adressant à chacune et chacun pour les former, les informer, les sensibiliser. Et deuxième élément, en essayant de faire bouger les politiques publiques pour obtenir des engagements plus forts sur la question des violences sexistes et sexuelles. Voilà, donc c'est un collectif assez informel au final, qui rassemble toutes celles et ceux qui ont envie de venir, qui est uniquement centré sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et c'est pas une union des féministes. Et je ne pense pas d'ailleurs que l'union des féministes existe en France. Je ne sais pas si elle existe dans certains pays.
Bah, cela dit, vous avez quand même réussi avec Nous Toutes à mobiliser des dizaines de milliers de personnes. Alors la première marche du 25 novembre, c'était en 2018 de mémoire. Et il y avait déjà à l'époque, je ne sais plus, on avait fait combien, 30 000
30 000 à Paris et 50 000 partout en France. Et cette année, c'était 100 000 à Paris et 150 000 partout en France.
faut quand même qu'il y ait pas mal de collectifs féministes, assos féministes, d'organismes qui se reconnaissent sous cette bannière et sous cet appel à manifester pour réussir à mettre autant de gens dans la rue.
Alors, ça, c'est assez paradoxal. C'est que, en fait, Nous Toutes a réussi à regrouper un grand nombre d'organisations féministes en soutien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, à peu près 70 organisations, que ce soit des organisations politiques, syndicales, associatives, des ONG, des organisations internationales, qui soutiennent Nous Toutes. Et ça, c'est vrai que ça faisait... Ouais, c'est assez rare dans l'histoire des mouvements féministes qu'on arrive à regrouper autant d'organisations différentes derrière un mot d'ordre commun. Donc ça, c'est évident que c'est une nouveauté dans le milieu, enfin, entre guillemets, dans le paysage politico-féministe français. Après, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec Nous Toutes, c'est qu'au final, quand vous regardez la façon dont s'est déroulée la manifestation, c'était pas une manifestation d'organisation. L'immense majorité des gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là dans des cortèges syndicaux, politiques ou associatifs. D'ailleurs, les cortèges en tant que tels des organisations, ils étaient plutôt à la fin de la manif et ils étaient plutôt petits par rapport à la manif en tant que telle. Donc l'immense majorité des gens qui sont venus à la manif sont des gens qui sont venus, évidemment, parce que cette manif était soutenue par des organisations. Ça donne une légitimité, une visibilité qui est hyper importante. Mais aussi parce que, justement, moi, je pense qu'une des réussites de Nous Toutes, ça a été de créer un mot d'ordre commun dans lequel pouvaient se reconnaître des gens hyper différents, de tous âges, de tous horizons, avec des convictions parfois assez différentes, mais qui se mettaient d'accord pendant une journée pour lutter contre les violences. Et ça, ça a largement dépassé en fait les organisations politiques, syndicales ou associatives.
T'as rigolé tout à l'heure quand j'ai parlé d'union des féministes. Pourquoi c'est si compliqué de réussir à faire une union des féministes pour beaucoup de gens? Le féminisme, c'est simplement une revendication d'égalité, lutter contre la discrimination liée au genre et au sexe. Il y a plein de points de clivage, moi j'en connais quelques-uns, mais il y a plein de points de clivage qui sont juste incompréhensibles ou inconnus de la plupart des gens. Je te demande ton avis d'experte, c'est quoi les principaux points de clivage entre les différents courants du féminisme actuellement en France?
Alors, d'abord, moi je ne suis pas sûre qu'il faille faire l'union des féministes. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de faire l'union des féministes? On est capable, ça a été le cas avec Nous Toutes par exemple, de s'unir ponctuellement sur des sujets donnés et de mettre autour de la table des gens qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. À Nous Toutes, vous avez le Parti Socialiste et le NPA. À Nous Toutes, vous avez la CFDT et la CGT. Donc des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur plein de trucs, mais qui se mettent d'accord ponctuellement sur un mot d'ordre commun, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc déjà, c'est le premier élément, c'est que les gens, ils disent, ah, faudrait faire l'union, mais pourquoi faudrait-il faire l'union des féministes? Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça super qu'il y ait plein de collectifs différents qui existent. Et puis, sur la question des clivages, moi, je trouve ça bien qu'on ne soit pas toutes d'accord entre nous. C'est-à-dire que c'est pas un problème, en fait. Il y a les journaux Libération, ils font tout le temps ça, les fractures au sein du mouvement féministe. Mais c'est fou, ça! Quand il y a deux partis politiques qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'on parle de fracture? Non, on parle de débats politiques très intéressants. Et alors quand c'est des féministes, c'est soit les fractures, soit les crépages de chignon. Enfin, ça va deux minutes, quoi. Oui, il y a des clivages politiques importants au sein du mouvement féministe. Et heureusement qu'on n'est pas toutes d'accord entre nous. Sur les questions économiques, par exemple, on n'est pas toutes d'accord entre nous. Il y en a qui pensent qu'il faut en finir avec le capitalisme, d'autres qui pensent qu'il faut l'aménager, d'autres qui pensent qu'au contraire, il y a même des personnes qui se déclarent féministes et qui sont libérales sur le plan économique. Bon, moi, ça me paraît un peu bizarre de mettre féministes et libérales ensemble, mais je veux dire, elles se disent féministes, c'est pas à moi de juger, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'il y ait des clivages au sein du mouvement féministe, moi, ça me paraît pas un problème, en fait. Ça me paraît plutôt le signe de la bonne santé du mouvement féministe. Parce que si le mouvement féministe était monolithique, franchement, ça veut dire qu'on serait quoi, 3,5? Ça serait pas très efficace, quoi. Voilà. Alors après, quels sont les principaux débats? Je pense que c'est marrant, parce que quand on parle de ça, souvent on va dire « Ah, bah, c'est la prostitution et le voile ». Moi, je pense qu'il y a des débats plus clivants dans les mouvements féministes que ça, encore. Notamment le délai de prescription, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre un délai de prescription sur les crimes et les délits? Je pense qu'on n'est pas du tout toutes d'accord entre nous. Moi, par exemple, je suis favorable à la prescription, alors qu'il y a des militantes féministes qui pensent qu'il faut supprimer la prescription, pour les crimes sexuels notamment. Et puis, il y a un deuxième débat qu'on n'a jamais vraiment, je pense, abordé de manière un peu frontale dans le mouvement féministe, qui est la question de la prison et du système pénal. Et là, je pense qu'on serait vraiment pas d'accord entre nous. Moi, par exemple, je me définis comme militante abolitionniste du système carcéral. Je pense qu'il faut en finir avec la prison. Et je me suis notamment, éveillée à ces sujets-là, notamment par le livre d'Angela Davis, « La prison est-elle obsolète ?», que je recommande fortement à tout le monde. Eh ben, je pense qu'on n'est pas du tout toutes d'accord entre nous là-dessus. Et ça, c'est des sujets qui, je trouve, seraient très intéressants, qui, par ailleurs, redessineraient sans doute certains clivages. C'est-à-dire que sur les questions, par exemple, de laïcité, peut-être qu'on ne serait pas, on serait peut-être pas d'accord entre nous sur les questions de laïcité, mais on pourrait être d'accord entre nous sur les questions de prison, par exemple. Pareil sur la prostitution.
Merci beaucoup pour ça.
Là, on m'a parcouru brièvement toutes les différentes actions que tu as menées, et ça donne l'impression que tu n'as jamais douté de ta légitimité à agir. Donc, est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment t'as fait pour juste te dire « Ok, j'ai le droit et j'ai ma place et je vais le dire haut et fort ».
Alors, encore une fois, il y a un petit décalage entre l'image et le son ou entre l'image et la réalité, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis comme, je pense, une grande, grande partie des femmes de ce pays, c'est que je passe mon temps à avoir l'impression de ne pas être légitime, pas être à la hauteur, pas être au niveau, pas être suffisamment comme il faut. Alors, comment je gère ça ? D'abord, en me disant que si je pense ça, c'est notamment parce que je suis une femme et que j'ai été socialisée comme une femme et que ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, j'essaye de le contourner. Par exemple, quand on m'appelle pour faire un média et que je dis « Oh là là, je sais pas si je suis la plus légitime », je suis là « Ah, merde, chier !» Est-ce que si j'étais un mec, je me dirais ça ? Peut-être que si j'étais un mec, je me dirais ça, j'en sais rien. Il y a sans doute des mecs qui se disent ça parfois. Globalement, je me le dirais quand même sans doute beaucoup moins. Donc ça, c'est le premier truc qui me permet d'agir contre ça. Et puis, le deuxième truc, c'est toujours cette histoire de, en fait, de m'appuyer sur les critiques empathiques. C'est-à-dire qu'il y a dans mon entourage, personnel, familial, des personnes qui vont m'aider à avancer et en fait qui vont me faire des critiques, qui vont me donner confiance en moi. Parce que quand on me dit, tu vois, Caro, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais la façon dont tu l'as dit, on aurait plutôt compris ça, c'était pas très clair. Ou tu vois, là-dessus, je trouve que tu pourrais peut-être prendre plutôt cet autre angle, cet angle-là, c'était pas le bon. En fait, ça vous donne confiance en vous pour faire mieux la prochaine fois. Et pour moi, ça, c'est... J'en discutais l'autre jour sur Twitter, dans un groupe de discussion privée sur Twitter avec des copines féministes qui me disaient « Ouh là là, attention, il y a une nouvelle vague de cyberharcèlement qui arrive sur toi, là, Caro, bon courage. » Et je leur disais « Mais en fait, je les vois même plus, ces vagues-là, parce que je bloque tellement tout le monde. C'est-à-dire qu'à la moindre malveillance, je bloque. Et moi, je ne m'intéresse qu'aux critiques intéressantes, aux gens qui vont essayer de me faire avancer. » Et ça, je pense que c'est aussi un bon moyen pour ne pas s'arrêter, quoi. C'est-à-dire essayer de se créer une sorte de blindage et de ne laisser rentrer que les personnes qui sont bienveillantes avec vous.
Et est-ce qu'il y a des fois où, davantage sur ton action, tu as des moments de doute où, en réfléchissant a posteriori, tu te dis « Ok, ça, je devrais le refaire maintenant, je le ferai différemment ».
Oui, tout le temps. Alors, d'abord, j'ai des moments de déprime. Généralement, c'est après un gros shoot d'activisme. Ça, à la maison, celui qui partage ma vie est très habitué à ça. C'est-à-dire qu'en gros, je monte très, très haut, genre très, 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 très haut. Et puis après, quand ça s'arrête, bam, ça retombe direct. Et là, pendant 2-3 jours, je suis au fond de mon lit, en mode le monde ne sert à rien, je suis une grosse merde, tout ça n'a aucun sens, ça va pas du tout. Et puis là, j'ai une nouvelle idée et ça repart. Les moments de kiff durent plus longtemps que les moments au fond de mon lit. Mais ça, c'est vraiment... bon. Après, il y a peut-être une autre explication qui est moins... qui est plus rationnelle, c'est que j'ai des problèmes de thyroïde et que ça peut générer des petites phases up et down. Bon. Donc, je sous-estime pas non plus ça. Comment je fais pour... Donc ça, c'est plus sur la question des déprimes. Et après, sur les questions de comment est-ce que on se remet en question ou on s'interroge. Par exemple, dans les formations Nous Toutes, pendant très longtemps, quand on parlait des chiffres clés des violences, je me rendais compte qu'on parlait des chiffres clés des violences que subissaient toutes les femmes. Donc on parlait des violences que subissaient les femmes en général. Et résultat, ça a comme implication mentale le fait de parler des femmes en général tout le temps. En fait, c'est comme quand on parle des gens, on parle au masculin, parce que le masculin l'emporte, le masculin est le neutre. Quand on parle des femmes, en fait, le neutre, ça va être une femme blanche, hétéro, plutôt favorisée. Et dans la formation Nous Toutes, là, que tu as suivi notamment, en fait, on a tout un temps sur... En fait, il y a des femmes qui sont plus particulièrement que d'autres victimes de violences. Et on parle d'intersectionnalité avec les personnes qui sont présentes. On leur parle de Kimberly Crenshaw. on leur donne toutes les ressources pour aller plus loin, avec cette idée de montrer que si on pense les femmes comme un bloc homogène, en fait, on va passer à côté d'un certain nombre de problématiques, que ce soit des violences liées au handicap, à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle, par exemple. Et ça fait partie des trucs où, moi, je pense que dans mes engagements féministes passés, on a raté un truc là-dessus. Et pour moi, nous toutes, à vocation justement à pas reproduire ces erreurs-là, ces oublis-là ou ces angles morts.
Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant toute ta carrière ? Quel conseil ou quelle leçon tu aurais voulu apprendre, je ne sais pas, il y a 20 ans ? Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps dans la vie ?
WhatsApp. S'il y avait eu WhatsApp plus tôt, j'aurais gagné du temps. Le fait de savoir faire des sites internet toute seule, ça je sais pas faire et c'est très énervant. Et puis ce qui m'aurait fait gagner du temps dans la vie, c'est d'apprendre plus vite à détecter les violences et à savoir réagir. Et pour moi et pour les autres.
Est-ce qu'il y aurait un conseil hautement facultatif que tu aurais reçu dans ta vie, c'est-à-dire quelqu'un qui te dit quelque chose en pensant te rendre service, mais en fait non?
J'en ai un, mais je peux pas le dire. Alors non, j'ai pas d'idée. Tiens, c'est marrant. Je pense que je les zappe en fait, ce genre de conseils. Vous voyez,
Et du coup, à l'inverse, si toi tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait suivre ton chemin, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors déjà de pas suivre le mien, d'en prendre un autre. Parce que si on est deux à faire exactement la même chose, ça va être un peu chiant, quoi. Puis ce sera plus marrant de construire le sien. C'est de s'entourer de personnes qui lui disent d'oser, quoi. C'est-à-dire que s'entourer de personnes qui vont vraiment, il y a des personnes dans ma vie sans lesquelles je pense j'aurais pas fait tout ça. J'aurais pas fait nous toutes. J'aurais pas fait les formations, par exemple. Donc vraiment, il y a cet aspect de s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. C'est ça pour moi qui est déterminant. Et si jamais les gens vous disent « Ouais, mais si on n'en a pas, passez une annonce sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui cherchent des amis, vous en trouverez sans problème. » Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas très... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'aller... Si on est entouré que de gens malveillants, faut changer, donc... Moi, je veux bien être votre amie.
Merci beaucoup Caroline, merci pour d'avoir répondu au questionnaire des activistes. On mettra évidemment tous les liens dans les notes du podcast pour retrouver nous toutes les formations. Effectivement, il y a beaucoup d'actu en ce moment, donc merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui. C'est passé beaucoup trop vite, n'est-ce pas ? Pas de panique, Caroline de Haas revient dès jeudi au micro des Impertinentes pour la deuxième partie de cette interview. Elle se livre sur les leçons qu'elle tire de ses différentes expériences professionnelles, personnelles et militantes. Si vous avez aimé cette première partie, vous aimerez très certainement la seconde. À retrouver jeudi 14 mai dans Les Impertinentes. N'oubliez pas d'aller envoyer de l'amour et du soutien à Caroline de Haas et à toutes les activistes qui, comme elle, font progresser la lutte pour l'égalité contre toutes les formes de discrimination sur tous les fronts. Je ne sais pas encore quand est-ce que la crise sanitaire sera derrière nous, quand est-ce qu'on pourra à nouveau faire une démonstration de nombre dans les rues de nos villes, mais quand ce sera possible, je serai là avec nous toutes. Merci pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.